Les cours du Collège de France, Nalini Anantharaman, chère géométrie spectrale.
Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler du comportement en zéro des fonctions état dynamiques et surtout de celui des séries de points carrés. Donc je vais reprendre un petit peu mon développement en parallèle que j'avais fait entre les graphes et les surfaces du courbure négatif que j'avais fait au premier cours. Donc je vous rappelle, pour les graphes, on avait vu que si on a un graphe fini, on peut construire la fonction zeta d'Iara, une fonction d'un paramètre U, qui est le produit sur toutes les, ce qu'on avait appelé les géodésiques, les géodésiques périodiques primitives. Primitives, ça veut dire qu'elles sont, on compte seulement la plus petite période de 1 moins U à la puissance longueur de gamma 0. Et là, les gens ont tendance à mettre à la puissance moins 1. Et ce qu'on avait vu, c'est que on a l'identité. Dans la définition, on met à la puissance moins 1, mais après, dans l'identité suivante, on reprend l'inverse de la fonction de zeta. Ça, c'est simplement, on peut voir que c'est en fait l'inverse de la fonction zeta, c'est un polynôme, et c'est simplement c'est le polynôme caractéristique de la matrice de Hashimoto. Alors, il me semble que j'avais dit comment on démontre cette identité. C'est, je redis rapidement, ce déterminant, en fait, on écrit que c'est l'exponentielle de la trace de logarithme de 1 moins UB. Ça, c'est vrai pour module de U assez petit. On fait le développement en série de logarithme de 1 moins UB. Donc la trace. Et après, la trace de B puissance N, elle s'exprime grâce aux géodésiques périodiques et on retrouve ce produit infini là. Une trace de B puissance N. C'est la somme sur toutes les géodésiques périodiques de longueur n. Alors là, cette fois-ci, pas forcément primitive. Et chaque géodésique vient avec un poids qui est la plus petite période. Et c'est en remettant cette identité-là, en remontant, qu'on trouve cette identité. Et ensuite, donc là, on va... Alors le comportement zéro, ça va être pour les surfaces dans le cas continu. Là, ce qui va nous intéresser, c'est le comportement en 1. Et on avait vu, on avait calculé l'espace propre associé à la valeur propre 1 de B. Et donc ça nous permettait de dire que ce polynôme, il s'annule en U égale 1. Et l'ordre d'annulation, c'est B, le rang cyclique du graphe. Ça, c'est valable pour un graphe, qu'il soit régulier ou non, tout ce que je viens de dire. Ça, on avait vraiment calculé l'espace propre associé. Alors, il y a un résultat analogue pour les surfaces de courbure négative, qui est... Il y a une machinerie d'analyse fonctionnelle qui est beaucoup plus compliquée à développer, qui utilise les espaces de Banach anisotropes et qui est basée... Alors, je vais juste énoncer les résultats. Alors, tout d'abord, il y a un théorème qui concerne des flots d'Anosov très généraux, qui est dû à Giulietti, Policott, Liverani. Et puis une autre preuve micro-locale qui est due à Dietloff et Zworski. avec des hypothèses un peu plus restrictives. Je vais plutôt me baser sur ce deuxième article, mais les hypothèses sont un petit peu plus restrictives. Et le résultat est le suivant, c'est que c'est vrai non seulement pour le flot géodésique d'une variété à courbure négative, mais c'est vrai pour un flot d'Anosov assez général. Donc on se donne X, une variété compacte. On a fité un flot d'Anosov. Et je vais supposer tout, c'est infini, parce que je me base sur l'article de Dyatlov et Zvorsky. Dans l'autre approche, on peut se limiter à deux classes CR. Flot d'Anosov. Et on regarde la fonction zeta de Rummel, qui est définie comme un produit. C'est pareil, c'est un produit sur les orbites périodiques du flot, orbites périodiques primitives. Un produit infini, 1 moins exponentielle, moins z. Et là, on met la période de l'orbite périodique. Et là, la plupart des auteurs ne mettent pas la puissance moins 1. C'est juste une question de convention. Donc au départ, ça c'est le produit infini, il est convergent. Pour partie réelle de z suffisamment grande. Et le résultat, c'est que ça admet un prolongement méromorphe. Assez tout entier. Ça, c'est si on suppose c'est infini. Si on suppose de classe CR, on doit s'arrêter à une certaine abscisse de convergence. En fait, plus la régularité est grande, plus on peut pousser le prolongement analytique vers la gauche du plan complexe. D'accord. Et en plus, on peut identifier. En fait, on peut écrire. En fait, l'idée, c'est qu'on peut écrire cette fonction de zeta comme un produit de plusieurs fonctions de zeta qui sont chacune associées à un certain espace de cohomologie. Donc, c'est un produit de pour k allant de 0 à n moins 1. N, c'est la dimension de x. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre comme ça. C'est un moins 1 puissance k plus dimension de la variété, dimension de la variété stable. Parce que dans un flot d'Anosov, il y a des variétés stables et instables. Donc en fait, selon la parité de k, on est soit au numérateur, soit au dénominateur. Et l'idée de la preuve, c'est de dire que ce zeta k de z, on peut l'écrire avec des guillemets comme le déterminant de A moins Z, où A c'est le déterminant sur un espace. Bon, ça, sous ça, ça va être des guillemets. C'est le déterminant sur un espace de Banach anisotrope. Alors j'ai gardé la notation grand A parce que sur la surface hyperbolique, c'est la dérivée de l'I dans la direction du flot. Et ça, c'est un certain espace de Banach anisotrope. C'est des formes différentielles de degré k, mais avec une certaine régularité qui est définie comme un espace de Banach anisotrope. Donc le k ici, donc on fait agir la dérivée de l'I, on fait agir le flot sur un certain espace de formes différentielles de degré k. C'est un certain espace de forme différentielle de degré de k avec une régularité de Sobolev anisotrope. Donc on peut définir. Donc l'idée est. Ouais. On peut définir l'espèce de construction que je vous ai montré un peu sur des exemples la dernière fois. On peut le faire dans un cadre assez général pour des fibres, pour des sections de certains fibrés, et en particulier on peut le faire pour des formes différentielles. En fait, le résultat, la méthode consiste à dire qu'une fois qu'on s'est donné, c'est qu'en fait, cette fonction zk de z, elle admet un prolongement analytique pour partir L de z plus grand que quelque chose qui dépend du S qu'on a choisi, mais que ce zéro de S, il tend vers plus l'infini quand S tend vers plus l'infini. Donc en fait, on peut étendre finalement, quitte à prendre le paramètre S dans l'espace de Sobolev assez grand, on peut étendre aussi loin qu'on veut vers la gauche. Et puis, donc quelle est la définition? Là, j'ai mis ce déterminant entre guillemets. Donc d'une part, c'est que les zéros de cette fonction zk, ils sont en bijection avec les solutions de a moins z oméga égale 0 dans cet espace fonctionnel. Et la multiplicité en temps de 0, donc la multiplicité en temps de 0 de la fonction zeta, ça correspond au rang du projecteur spectral. Et en fait, dans le papier de Dyatlov et Svorsky, il démontre pas cette identité avec un déterminant, il travaille avec la dérivée logarithmique. En fait, ce qu'il montre, c'est que si on prend zeta prime sur zeta, ça peut s'écrire comme une trace, et là, c'est une trace régularisée, hein, qui a vraiment un sens précis au sens de... Vous l'avez défini Victor Gilmin, c'est la trace de la résolvante. Alors là, je suis plus sûr du signe. Donc la vraie identité avec laquelle travaillent Dyatlov et Svorsky, c'est ça. Et après, on peut remonter, on peut voir ça comme étant une sorte de déterminant. Donc ça, c'est un théorème très général sur les flots d'Anosov. Si on regarde le cas particulier du flot géodésique sur une surface, donc dans le cas particulier où on a une surface de courbure négative compacte, M, une surface compacte de courbure négative, X, c'est le fibré unitaire tangent, phi t, le flot géodésique. Donc le petit n ici c'est 3, c'est la dimension du fibré unitaire tangent d'une surface. Donc zeta, là l'énoncé il va dire que la fonction zeta de Hurwel, on peut l'écrire comme le quotient entre une fonction zeta qui agit sur les informes, une fonction zeta qui agit sur les fonctions et une fonction zeta qui agit sur les deux formes. Et dans le cas particulier donc du flot géodésique sur une surface, en fait, si maintenant on fait z égale 0, on garde le comportement en z égale 0, ce que font Dyatlov et Svorsky, c'est qu'ils calculent exactement les solutions de a oméga égale 0, et ils montrent que c'est en bijection avec finalement les... Donc il montre deux choses. Il montre d'une part que z égale 0, c'est une valeur propre semi-simple, c'est-à-dire que la multiplicité algébrique, que c'est vraiment un sous-espace propre, hein, il n'y a pas de bloc de Jordan. Donc la multiplicité algébrique, c'est vraiment la dimension de l'espace des solutions de a oméga égale 0. Et puis ils savent calculer, un peu comme nous on avait fait dans le cas un peu bébé des graphes, on avait vraiment calculé à la main l'espace propre de la matrice de Hashimoto, ils peuvent aussi calculer à la main les sous-espaces propres et les mettre en bijection avec les espaces de cohomologie. Et donc celle-ci, donc la dimension de l'espace des solutions du noyau de A sur, dans les formes de différentiel, les formes différentielles de degré K. C'est ce qu'ils arrivent à montrer, que c'est le kème nombre de Betti de la surface. Donc ça veut dire qu'on sait que L, zeta 1, elle s'annule à l'ordre B1, le premier nombre de Betti, zeta 0, elle s'annule à l'ordre B0, qui est juste 1 si la surface est connexe, et puis zeta 2, elle s'annule à l'ordre B2. Donc ça, ça donne le théorème de Dyatlov et Zborsky. Donc dans le cas d'une surface à courbure strictement négative, la fonction zeta de Hurwel, quand z tend vers 0, c'est équivalent à une constante fois z à la puissance, donc c'est b1 moins b0 moins b2, c'est-à-dire l'opposé de la caractéristique de l'air. Donc il y a une interprétation topologique qui ne dépend pas de la métrique riemannienne, de l'ordre d'annulation de la fonction de zeta en 0. J'ai déjà cité, je pense, un théorème de Dang-Rivière. Alors là, c'est Dyatlov-Zborsky, là maintenant c'est Dang-Rivière. Je pense l'année, je ne sais pas, c'est à peu près 2017. Qui est basé sur les mêmes outils de construction d'espaces de Banach anisotropes qui concernent les séries de points carrés. Donc on est dans le même cadre, on a une surface compacte à courbure strictement négative. C'est le théorème que Viette nous a cité la semaine dernière. Je vais juste citer peut-être un cas particulier où on regarde les géodésiques allant d'un point vers un autre. Donc on prend deux points sur la surface et on forme une série somme sur toutes les géodésiques. Donc maintenant, au lieu d'être des géodésiques périodiques, on regarde toutes les géodésiques qui vont de x1 à x2 et on fait exponentielle moins s fois la longueur de la géodésique. Je vais appeler ça p indice x1, x2 de z, de s, pardon. Donc là, cette série, elle converge absolument si la partie réelle de S est suffisamment grande. Et ça, c'est ce dont Viette nous a parlé en partie la semaine dernière. Il a cité ça. En fait, on peut. Donc, dans le cas du théorème, dans le cas de la fonction zeta de Hurwel, la manière dont on montre le prolongement méromorphe, c'est qu'on voit que c'est quasiment comme un déterminant. Là ici il y a une interprétation du même style, mais ce qui sort c'est pas le déterminant, c'est la résolvante. En fait cette série de points carrés, on peut l'écrire en introduisant les bons espaces, on peut l'écrire en termes de la résolvante de l'opérateur A, donc toujours la dérivée de l'I dans la direction du flot. Et là, bon, ça, il faut introduire des espaces. Ces deux quantités-là, sont dans des espaces de courant. Donc le sigma 1, c'est le courant d'intégration. Il faut regarder tous les vecteurs tangents à la surface qui sont basés en x1. Ça dessine une courbe dans le fibré unitaire tangent. Il faut regarder le courant d'intégration le long de cette courbe, et puis la même chose en x2. Finalement, si on veut une manière de montrer qu'il y a un prolongement méromorphe à cette série de points carrés, c'est, encore une fois, de trouver des bons espaces dans lesquels ces courants d'intégration se situent et dans lesquels on peut montrer que l'opérateur A a du spectre discret. Donc il montre que cette série de points carrés, elle admet un prolongement méromorphe sur C. Et que si je fais S égale 0, en fait, la valeur en 0 est finie. Il devrait y avoir un pôle, parce que il y a, pour la même raison qu'avant, cet opérateur, il a 0 dans le spectre. Hein, il devrait y avoir un pôle, donc c'est plutôt surprenant qu'il y ait une valeur finie en 0, mais en fait, c'est une valeur finie, et la valeur, c'est 1 sur la caractéristique de l'air, si x1 différent de x2, et puis 1 sur la caractéristique de l'air moins 1, si x1 égale x2. Donc encore une fois, la valeur en 0, c'est un invariant topologique qui est indépendant de la métrique qu'on a mise sur la surface, du moment qu'elle est à courbure strictement négative. Donc ce que je veux faire aujourd'hui, c'est démontrer un résultat analogue dans le cas des graphes. C'est finalement, quand j'ai vu ce résultat, je me suis dit que j'allais m'amuser à essayer de faire la même chose dans le cas des graphes et voir ce que ça donnait. Je ne sais pas si ça avait été fait avant, donc je vais vous faire ce calcul. C'est beaucoup, dans le cas d'un graphe, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas du tout d'analyse fonctionnelle. On peut juste faire les calculs avec des matrices finies sans se poser de questions. Je veux juste, avant ça, vous dire que j'ai dit une petite bêtise sur quand je vous ai donné des exemples de systèmes de la semaine dernière, je vous ai donné des exemples basiques d'espaces de Sobolev anisotrope et je vous ai dit une petite bêtise mais ça tombe parfaitement bien parce que ça va constituer une bonne introduction à l'exposé de Sébastien. La semaine dernière, je vous ai dit je vous ai donné comme exemple le système dynamique X donne X exponentielle T sur R. Donc on avait regardé le flot unitaire. Sur L2, qui était UT de X et U de X exponentielle T sur 2. Donc là, ce flot, il a du spectre absolument continu sur L2, mais on avait dit on va le faire agir sur un espace de Sobolev pour faire apparaître du spectre discret. Donc on l'avait fait agir sur un espace de Sobolev négatif. On a pris S négatif. Et donc ça, cet espace de Sobolev, c'est l'image de L2 par un multiplicateur de Fourier. Et le calcul qu'on avait fait, on avait calculé le générateur de ce... Donc ça, on va l'appeler ça UT. On avait calculé que le générateur de ce flot, mais si on le fait agir sur HS, il est conjugué. On s'était ramené à L2 par cette conjugaison-là. Et on avait calculé qu'il était conjugué à grand A qui était le générateur sur L2, donc grand A qui était anti-auto-adjoint. Qui était en fait grand A, c'est le générateur de ce flot, donc c'est en X, c'est 1 demi plus X dx, ou en Fourier, c'est moins 1 demi moins xi dxi, on peut l'écrire en X ou en Fourier, plus S, et puis il y avait une perturbation qui sortait. Et la perturbation en Fourier, elle était très simple à exprimer parce que c'était U chapeau, j'associe, alors c'était S, faut vérifier, ça devait être avec un... Donc en Fourier, la perturbation qui sortait... Donc là, c'était juste l'opérateur, un opérateur anti-auto-adjoint qui est juste le générateur du flot à l'origine, mais la conjugaison, elle introduisait d'une part une translation de S, c'était bien parce que ça décalait... tout le spectre de cet opérateur se trouvait décalé, et puis il y avait cette perturbation qui était facile à calculer en Fourier. Et on voit que c'est une fonction donc qui tend en Fourier, c'est une fonction qui tend vers zéro, en l'infini. Et je vous avais dit, ça fait une perturbation compacte, donc le seul spectre qui peut apparaître, c'est du spectre discret. Mais en fait, moi, j'ai l'habitude de travailler toujours sur des variétés compactes. Or, le R, là, il n'est pas compact. Donc, pour avoir un opérateur compact, il faut pas seulement de la décroissance en psi, mais il faut aussi de la décroissance en x. D'accord ? Autrement dit, cet opérateur, il serait compact si on le restreignait en x à L2 d'un compact, mais par contre, notre système dynamique, il préserve pas ce compact. Donc là, mon exemple, il a un problème parce que la perturbation est pas compacte, et ça, c'est parce que j'ai pris un système dynamique qui est avec un espace des phases qui est pas compact. Ce qui tombe bien, c'est qu'aujourd'hui, Sébastien va justement vous. Donc normalement, je pense qu'il n'y a pas encore énormément de travaux sur les espaces de Sobolev anisotropes quand on est. Ou des espaces de Banach anisotropes. Je ne sais pas si ça sera des espaces de Sobolev tout à l'heure. Ce sont des espaces de Banach anisotropes. Si la variété de base n'est pas compacte, il n'y a pas encore énormément de travaux, mais en tout cas, il faut absolument se préoccuper de ce qui se passe à l'infini en X. Donc on va en entendre parler tout à l'heure. Si vous voulez modifier cet exemple, il y a une manière simple de le modifier, c'est. Et après, je vous reparlerai, après cette petite digression, je vous reparlerai de série de Poincaré sur des graphes. Donc, je vous propose de modifier les angles comme ça. Donc, notre problème, ça venait du fait qu'en X, on n'était pas compact. Donc, on va prendre un système dynamique qui est sur R sur Z. Et au lieu de faire X, on va faire X donne 2X. Modulo 1. Hein, donc maintenant, on va voir sur les fonctions, donc c'est simplement la composition. Donc voilà, c'est. Alors c'est un système dynamique qui n'est pas inversible, donc voilà. Cet opérateur, maintenant, c'est une isométrie, c'est plus unitaire, c'est une isométrie sur L2. Et c'est pareil, il a du spectre, on peut calculer son spectre, hein, et c'est pas très dur. En Fourier, si je calcule, alors maintenant, en Fourier, il s'agit de coefficients de Fourier. Donc là, maintenant, le cas, la variable de Fourier, elle varie, au lieu de varier dans R, elle varie dans les entiers. Et si on calcule les coefficients de Fourier, ça revient juste à faire U chapeau de K sur 2, et puis c'est vrai seulement si K est pair. Donc en Fourier aussi, on voit que c'est une isométrie. Si on fait agir maintenant sur un espace de Sobolev, donc en écrivant que l'espace de Sobolev, ben c'est aussi c'est l'image de L2 par un certain multiplicateur de Fourier. On voit que U, il devient conjugué. Il devient conjugué à quelque chose qui dépend de S. Je vais l'écrire, je pense, c'est mieux de l'écrire en Fourier, oui. Il devient conjugué à un opérateur qui, en Fourier, agit de la manière suivante. Donc, il y a toujours l'opérateur, l'isométrie de départ. Et puis le fait d'avoir conjugué, de s'être placé sur HS, ça fait sortir une contraction, donc 2 puissance S. Et donc là, pour que les choses se passent bien, il faut prendre, comme tout à l'heure, il faut prendre S négatif. Et puis, c'est pas tout. Et puis, on peut faire le calcul. Il y a quelque chose qui tend vers 0 en Fourier. Que j'écris pas, mais qui peut se calculer facilement à la main. Donc exactement le même phénomène, le fait d'être passé sur un espace de Sobolev, ça a fait sortir une contraction. Donc là, il y avait celui-là qui était une isométrie et qui avait un spectre absolument continu. On l'a multiplié par une contraction et puis là, par contre, là, il y a quelque chose qui est en Fourier décroît à l'infini et maintenant, lui, j'ai le droit de dire qu'il est compact parce que j'ai plus le problème de tout à l'heure. Lui, c'est vraiment le fait qu'en Fourier, ça soit un multiplicateur qui tend vers l'infini, et il est bien compact. Donc. Il est bien compact sur L2 de... Ça, c'est sûr. Sur L2 de R sur Z. Donc, si je veux... Il se passe la chose suivante. Hein. Au départ, on avait une isométrie dont le spectre, c'était le cercle de rayon 1. Ça, c'était le spectre sur L2. Et le fait d'être passé sur HS, bah, il y a eu... Ça a fait déjà... Ce cercle de rayon 1, il est passé à un cercle de rayon 2 puissance S. Il a été contracté là. Et puis, l'opérateur compact, le fait qu'il y ait une perturbation compacte, ça permet de dire que dans toute cette région, ici, il n'y a que du spectre discret. Ça, c'est quand on est sur HS. Voilà, je voulais juste rectifier ça. Et ça tombe bien parce que ça va bien avec le sujet du séminaire d'aujourd'hui, c'était pas prévu. Bon, cette parenthèse étant fermée, je vais énoncer l'analogue du théorème de Dandrivière sur les graphes. Donc on se donne un graphe fini. Il peut être régulier ou non, hein, ça n'a pas d'importance. Enfin, et je vais former une série de points carrés, dont je me donne x1, x2, deux sommets. Et je vais former une série de points carrés comme étant somme pour n plus grand que 1 de z puissance n fois quelque chose que je vais appeler gamma n de x1, x2. C'est le nombre de géodésiques de longueur n qui vont de x1 à x2. Donc c'est la série génératrice, c'est ce qui joue le rôle de la série de Dirichlet précédente, c'est la série génératrice dont le coefficient donne le nombre de géodésiques d'une certaine longueur allant de x1 à x2. Et la manière... Là, dans le cas discret, on est toujours un petit peu embêté par des questions de comment on compte les longueurs. Et ça, d'ailleurs, ça a été source d'erreurs de ma part à plusieurs reprises. Je vais dire que si j'ai un chemin comme ça, je vais dire que sa longueur est 3. Mais par contre, là où il faudra faire attention, c'est que ça correspond seulement à deux itérations de la matrice de Hashimoto. Parce que je suis parti de cet arête orienté là et j'ai pris deux successeurs. Donc voilà. Et donc elle admet un prolongement homéromorphe, ça va pas être très compliqué contrairement au cas des surfaces. Ce qui va jouer le rôle de la valeur en S égale 0, c'est Z égale 1. En z égale 1, ce qu'on va voir, c'est que normalement, elle devrait avoir un pôle, parce que, comme précédemment, c'est un endroit où la matrice de z égale 1, c'est dans le spectre de la matrice de Hashimoto. On va voir que ça devrait normalement donner un pôle, mais en fait, il y a une valeur finie. Et cette valeur, c'est 1 sur le rang cyclique, si x1 est différent de x2. Et si x1 égale x2, c'est pareil, il y a le décalage de 1. Et B, je vous rappelle, c'est ce qu'on avait appelé le rang cyclique, c'est 1 sur 1 moins B. 1 sur 1 moins B moins 1. B, c'est le rang cyclique, c'est le nombre d'arêtes moins le nombre de sommets plus 1. Donc c'est le nombre de cycles, c'est le nombre d'arêtes qu'il faut couper pour avoir un arbre. Et ça, pour que ce théorème soit vrai, il faut supposer que B est différent de 1. Parce que si, s'il y a juste un cycle dans le graphe, le calcul se passe pas de la même manière et on peut voir facilement que notre série elle a vraiment un pôle, elle a vraiment un pôle quand z égale 1. Donc là, c'est vrai pour n'importe quel graphe. Et je vais vous faire la preuve. Les étapes de la preuve sont les mêmes que... Les grandes étapes sont les mêmes que dans celle de l'article de Dandelier-Rivière, mais par contre, les détails sont différents. Il y a moins d'analyse fonctionnelle. Et par contre, on peut pas s'aider de la géométrie différentielle. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais on ne peut pas utiliser de géométrie différentielle. Alors la première étape, c'est d'écrire une formule du même style, avec la résolvante. Et comme j'ai dit, c'est beaucoup plus simple parce que gamma n de x1, x2, je vais pouvoir l'écrire en termes de la matrice de Hashimoto. Je vais pouvoir l'écrire. Alors c'est là qu'il faut. Il y a un décalage de 1. Alors les fonctions s(x1), c'est une fonction. J'ai mis s comme source et p comme puits. Donc s(x1) c'est la fonction indicatrice des vecteurs basés en x1. Enfin, je dis vecteur, mais c'est, je veux dire, les arêtes orientées. Ça c'est s(x1). Et px2, c'est la fonction indicatrice des arêtes orientées qui arrivent en x2. Et c'est là, je dis qu'il faut faire un petit peu attention. Si la géodésique, elle est de longueur... Si je compte ça comme géodésique de longueur 3, j'ai malgré tout seulement deux itérations de la matrice de Hashimoto. Et ça, en sommant la série, ça me dit que... la série Poincaré, je peux l'écrire comme z fois somme pour n plus grand que 1, n allant de 1 plus l'infini de z puissance n moins 1, sx1. Donc autrement dit, je peux l'écrire grâce à la résolvante, c'est z fois sx1, 1 moins zb, l'identité, je veux dire moins zb, puissance moins 1, px2. Et donc ça je peux l'écrire, ça c'est vrai pour, au départ, c'est vrai pour z, pour module de z assez petit. Dans cette série, elle converge pour module de z assez petit. Mais une fois qu'on l'a écrit grâce à la résolvante, on voit directement qu'il y a un prolongement méromorphe. Et puis, les pôles, c'est les inverses des valeurs propres de B. En tout cas, sont inclus. Donc les pôles, c'est inclus dans l'ensemble des inverses des valeurs propres de B. Et les valeurs propres de B, on les avait calculées. On avait dit qu'il y en avait un certain nombre qui venaient des valeurs propres du Laplacien sur le graphe, et puis il y avait plus ou moins un qui étaient des valeurs propres topologiques qui venaient de version un petit peu simple de la cohomologie. Donc en fait, on avait la décomposition spectrale de B, on l'avait faite. Pas tout à fait, ça c'est pas vrai, je vais dire. La décomposition spectrale, on l'avait faite de manière complète quand le graphe était régulier. C'était là qu'on avait dit que... j'allais écrire quelque chose de faux. Dans le cas d'un graphe pas régulier, on n'avait pas fait la décomposition spectrale de B. Dans le cas d'un graphe régulier, on avait dit il y a des valeurs propres topologiques et puis il y a des valeurs propres qui viennent des valeurs propres du Laplacien, mais ça c'est pas vrai si le graphe est pas régulier, donc on va pas faire ça. Mais on avait quand même dit quelque chose Les valeurs propres plus ou moins 1, là, le raisonnement qu'on avait fait pour les valeurs propres plus ou moins 1, lui, il ne dépendait pas du fait que le graphe soit régulier ou non. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est particulier, c'est que on avait vu que le noyau de B moins l'identité, c'était égal au noyau de B étoile moins l'identité. Et on peut l'identifier à, c'est l'ensemble des fonctions sur les arêtes orientées qui sont impaires. Donc f d'une arête, c'est égal à moins f de l'arête dans l'autre sens. Et qui vérifie la loi de Kirchhoff. Donc la somme des valeurs sur toutes les arêtes qui partent ou qui arrivent en un point doit faire 0. Et c'est à partir de ça, en fait, qu'on avait calculé la dimension de cet espace et qu'on avait vu que ça donnait le rang cyclique. Voilà. Donc, en fait, le reste du spectre, en général, on le connaît pas. Et ça, c'est la même chose dans l'article d'André-Rivière. Il se passait la même chose dans d'André-Rivière et dans Dyatlov-Dvorsky. On est en une valeur particulière, on sait identifier les fonctions propres, alors que le reste du spectre, on le connaît pas, on n'a pas très envie de le calculer. Enfin, on ne sait pas si ça va être des blocs de Jordan ou non, et on n'a pas du tout envie de le calculer. Ce qui est chouette, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de calculer le reste du spectre. Alors déjà, ce qui est important, c'est que voilà, le fait que le noyau de B-I, ça soit la même chose que le noyau de B étoile moins I, ça me dit d'une part que c'est une valeur propre semi-simple, hein, donc il n'y a pas de bloc de Jordan, et d'autre part que le sous-espace propre associé, il est orthogonal à tous les autres espaces caractéristiques. Donc ça me dit que la décomposition spectrale de B, même si je ne sais pas la faire en détail en général, ça va décomposer l'espace des fonctions sur les arêtes orientées en le noyau de B-I, qui est aussi le noyau de B étoile moins l'identité. Alors, il va y avoir la même chose en plus I. Et puis, tout le reste, c'est les espaces caractéristiques, et je sais pas vraiment grand-chose sur eux, mais... c'est une somme qui n'est pas forcément orthogonale, a priori. Il y a des valeurs propres dont je ne sais rien, en général, et puis ça peut y avoir des blocs de Jordan. Mais par contre, cette somme-là, elle est orthogonale. Donc ça veut dire que j'ai une base, j'ai une décomposition. Je vais juste m'intéresser à ce qui se passe en 1. Je pense qu'en fait, on pourrait faire la même chose en moins 1, mais je n'ai pas fait le calcul. Je pense qu'il y a aussi une valeur spéciale en moins 1. Il y a une décomposition orthogonale de l'espace, où là, j'ai des blocs de Jordan. En tout cas, là, j'ai une matrice qui n'a pas 1 dans son spectre. Et ici, j'ai l'identité. Donc, je peux trouver une base orthonormale dans laquelle... B, elle va s'écrire comme ça. Enfin, une décomposition orthogonale de l'espace. Et donc, quand je fais l'identité moins B, l'identité moins ZB, là, je vais avoir 1 moins Z. Et puis là, j'ai quelque chose qui va toujours être inversé. Enfin, là, voilà, je vais... Donc... Et celle-ci, avec 1 qui n'est pas dans le spectre, 1 n'est pas dans le spectre de B tilde. Alors, ça veut dire que normalement, quand je fais Z égale... et quand je fais maintenant... moins 1, ici j'ai 1 moins z moins 1, moins 1 et moins 1. Ça veut dire que normalement, maintenant, quand je regarde le comportement en z égale 1, celle-ci, elle a vraiment un pôle. Donc normalement, comme j'avais dit avant, ma série de points carrés, elle devrait aussi avoir un pôle. La raison pour laquelle elle n'a pas un pôle, c'est que à la fois, bon, il se trouve, ces deux fonctions-là, là, SX1 et PX2, elles sont dans le noyau, elles sont dans l'orthogonale du noyau. Ça se voit directement parce qu'elles sont orthogonales à la loi de Kirchhoff. Donc en fait, il se trouve qu'à la fois SX1 et PX2, elles appartiennent à l'orthogonale du noyau. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, donc, en particulier, si je fais en fait, donc PX2, il est uniquement là-dedans, en fait. Enfin, voilà. PX2, il est dans cet espace-là. Donc, il a une limite. Quand Z tend vers 1, qui vaut, si je dis pas de bêtises, hein, qui vaut. Ok, donc ça veut dire que. Donc là, j'ai montré qu'il y avait une valeur finie, et ça veut dire que la valeur de la série de points carrés en 1, c'est égal au produit scalaire entre SX1 et. Et voilà, la fonction PX2 en laquelle j'applique l'identité moins B à la puissance moins 1, qui est bien définie. Donc là, pour l'instant, en fait, j'ai juste utilisé le fait que celui-ci était dans l'orthogonale du noyau. Maintenant, si je veux calculer la valeur, vous voyez, a priori, on a l'impression que si on veut calculer cette valeur, il va falloir en fait vraiment calculer, il va falloir faire la décomposition spectrale complète hein, de la matrice de Hashimoto. Donc, on a l'impression que si on veut calculer la valeur précise, il va falloir calculer en fait toutes les valeurs propres et calculer ce truc. Et ça, c'est pas très engageant. Mais ce qui est assez chouette, c'est que maintenant on peut utiliser le fait que SX1 il est aussi dans l'orthogonale. Alors il est dans. Alors là, on va peut-être l'utiliser pour l'adjoint. Il est dans l'orthogonale du noyau de l'adjoint. Ce qui fait que ça, c'est aussi la même chose que SX1. Non, on va réutiliser qu'il est dans l'orthogonale. Ça, c'est la même chose. Ici, en fait, je peux mettre ce que je vais appeler WX2, c'est n'importe quelle solution. De identité moins B WX2 égale PX2. Je suis pas obligée de mettre celle-ci, je peux mettre n'importe quelle solution de ça parce que deux solutions vont différer par un élément du noyau et donc la différence va être tuée par lui. Donc j'utilise de nouveau que c'est orthogonal, c'est toujours avec B. Hein, donc ça c'est aussi dans votre article. D'une certaine, enfin, moi je l'ai vu dans votre article en tout cas, que en fait on peut, ça c'est vraiment l'idée qui va nous affranchir du fait de calculer toute la décomposition spectrale. Ça c'est une première chose. Et alors l'autre chose qui va permettre de faire les calculs, c'est la proposition suivante, c'est que si on a un point Y qui est voisin de X2, et si X1 est différent de X2, alors PX1 X2 de 1 est égal, ça c'est le fait que la valeur en fait elle dépend pas du point. Alors, dites si vous n'arrivez pas à voir mes indices. Ça va être ça. Ouais, donc là, c'est dans le cas X1 est différent de X2. En fait, si je remplace X2 par un point voisin, ça fait la même chose. Alors, je ne sais plus s'il faut que le deuxième soit aussi supposé différent. Ou il faut peut-être que les deux soient différents. Les deux différents. On vérifiera en faisant la preuve. Et par contre, donc je vais appeler. Donc en fait, cette fonction, elle est constante. Si je la vois comme une fonction du deuxième point, elle est constante sur le complémentaire de x1. Donc je vais appeler ça c. Et c'est cette fonction c'est cette constante c qu'il faudra calculer. Et par contre, si je fais. Si je regarde la valeur. En x1, ça va faire c moins 1. C'est ça qu'il faut montrer. Et là, par contre, ça, je fais vraiment la preuve est complètement différente de ce qui se passe. Dans l'article de Danguet-Rivière, ce nombre, il est interprété comme un nombre d'enlacements de deux nœuds et il montre que ça soit un variant par homotopie. Et là, j'ai pas du tout vu ce qui pouvait remplacer cette interprétation-là. Je sais même pas s'il faut essayer de voir cette interprétation-là ou non. J'ai fait complètement différemment, de manière un peu plus terre-à-terre. Donc en fait, je vais regarder dans le cas où x1 différent de x2. Donc je prends x1, x2, et je prends donc un voisin, y, c'est un voisin de x2. Et ce que je dis, c'est que si je compte les géodésiques qui vont de x1 à x2, il y en a, soit elles peuvent avoir visité y avant d'arriver en x2, ou elles peuvent au contraire, je vais diviser en deux cas. Il y a les géodésiques qui visitent y juste avant d'arriver à x2, et puis les autres où le point avant x2 n'est pas égal à y. Et si le point avant x2 n'est pas égal à y, ça veut dire que la géodésique, je vais pouvoir la prolonger en temps n plus 1 en une géodésique qui se termine en y. Donc en fait, La série de points carrés, en fait, je vais la diviser en deux séries. Il y a les géodésiques de longueur n qui se terminent par l'arête yx2. J'écris pas, je le dis juste à l'oral. Hein, c'est les géodésiques de longueur n, mais dont la dernière arête est yx2. Et puis il y a les géodésiques de longueur n dont la dernière arête est pas, donc je vais d'abord l'écrire comme ça, avec z différent de y1, z différent de y. Mais en fait, celle-ci, les géodésiques de longueur n qui terminent par z x2 avec z différent de y, c'est en bijection avec les géodésiques de longueur n plus 1 qui se termine par l'arête x2y. Hein, c'est ce que je viens de dire. Si, comme j'ai la règle de pas avoir le droit de retourner en arrière dans la matrice de Hashimoto, si à l'étape d'avant j'étais pas en y, ça veut dire qu'à l'étape d'après j'ai le droit d'aller en y. Et donc, ce gamma n là, c'est égal à gamma n plus 1. C'est le nombre de géodésiques de longueur n plus 1 qui vont de x1 à y. En se terminant par la grecque x2y. Donc le premier terme, comme précédemment, je l'écris z fois sx1 identité moins zb moins 1 fois fonction indicatrice de l'arête yx2. Et le deuxième terme, c'est presque pareil, mais il y a ce décalage de 1 qui va faire une petite différence. L'autre terme, en fait, il s'écrit, ça va être somme. Je vais essayer de faire de tête. Oh non, c'est 1 sur z. Je vais faire Ça va faire quasi, voilà, ça va faire x 1. Bn plus 1, fonction indicatrice de x2, y. Donc là, voilà, là, il y a un décalage qui s'opère. Du coup, là, la somme, elle va commencer à 2, je peux remettre n. Et c'est là qu'on voit la différence entre le cas où x1 est égal à x2 et le cas où x1 est différent de x2. Parce que si x1 est différent de x2, le fait d'avoir commencé la série à 1 ou à 2, ça ne va pas faire de différence. Parce qu'il n'y a pas de toute façon... qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, si je veux... si x1 est différent de x2... j'ai mal mis mes indices. C'est toujours... oui, là, c'est toujours ben moins. Voilà, ça c'est correct. Ça, c'est bon. En fait, si x1 est différent de x2, le cas n égale 1 est de toute façon pas possible, ça va donner une contribution nulle. Alors s'ils sont égaux, ça veut dire que j'ai oublié un des termes qui correspondrait juste à l'identité. Donc ça, c'est en fait le deuxième terme, c'est, je peux l'écrire comme 1 sur z, sx1. Facteur de SX1 identité moins ZB moins 1 fonction indicatrice de X de Y. Et dans le cas où X1 était égal à X2, en fait, j'ai oublié 1, donc il faut. Il a moins masse de Dirac en X1 égale X2. Donc maintenant, quand je prends la valeur en 1, donc là, pour la même raison que tout à l'heure, ça pose pas de problème de prendre la valeur en z égale 1. Alors, celui-ci, il est pas dans l'orthogonale du noyau, mais celui-ci, il y est toujours. Donc, ça pose toujours pas de problème de prendre la valeur en 1. Et ça, donc, en z égale 1. Et puis, ce qui tombe bien, c'est que 1 sur 1, ça fait 1 aussi. Donc, ça fait que la série de points carrés en 1, je peux l'écrire comme SX1. Je vais l'écrire comme ça. Donc là, j'ai la fonction indicatrice de l'arête YX2, plus la même chose où X2 et Y sont inversés. Et puis, il y a ce décalage de 1 qui apparaît seulement si X1 égale X2. Et là, ça démontre la propriété qu'on avait énoncée parce que les deux premiers termes, ils sont symétriques si j'inverse X2 et Y. Voilà, donc là, on a montré que comme fonction de X2, la fonction, elle est constante sur le complémentaire du singleton X1. Et puis que si je fais x2 égale x1, c'est la même valeur décalée de 1, et il reste à calculer cette valeur. Et là, encore une fois, on veut vraiment pas calculer la décomposition spectrale complète de la matrice de Hashimoto. Et il y a une idée qui vient de l'article, qui est de choisir une bonne fonction test. J'ai par contre la fonction test que j'ai prise ressemble pas trop à celle que vous avez. Et puis vous utilisez à un moment la théorie de Morse, et là j'ai essayé de me renseigner s'il y avait une théorie de Morse sur les graphes discrets. Alors j'ai trouvé des gens qui avaient essayé de construire une notion de fonction de Morse sur un graphe discret et de faire une théorie de Morse, mais bon, j'ai pas eu envie de partir dans cette direction là. Ce qui m'a pas trop plu, c'est que la définition que j'ai vue dans la littérature, si f était une fonction de Morse, moins f ne l'était pas. Déjà, ça me plaisait pas trop. Et du coup, je suis partie dans une autre direction. Et donc, il y a cette idée qui ressemble à la vôtre de prendre une fonction test. Mais après, le calcul est pas fait, est assez différent. Donc, la fonction test que j'ai prise. Bon, je l'appelais W, je ne sais pas pourquoi, mais c'est simplement une fonction qui met 1 sur toutes les arêtes orientées. Voilà. C'est une fonction constante. Donc si je calcule la matrice de Hashimoto appliquée en W, ça va faire... Alors il y a de nouveau un poids sur chaque arête orientée, et là, c'est là où ce matin j'ai eu des sueurs froides parce que je croyais que je m'étais trompée de sens. Mais, le poids qui sort, il s'exprime en fonction du degré du deuxième sommet. Donc c'est d2y moins 1. D'accord ? Donc le poids qui sort, il dépend du deuxième sommet. Donc autrement dit, c'est la somme sur y. Je peux l'écrire comme la somme sur y de d2y moins 1 fois la fonction pi en y. Ou autrement dit, si je fais identité moins b appliquée à cette fonction w, ça fait somme sur y de 2 moins le degré de y de la fonction pi en y. Et vous souvenez, tout à l'heure j'avais dit ce que j'appelle W indice X, c'est n'importe quelle solution. Donc ce que j'appelle W indice X, c'est solution de identité moins WX égale PX. Et ça, c'est défini modulo un élément du noyau. Donc solution modulo un modulo quart de B moins identité. Donc ça veut dire que je peux dire... J'ai peut-être gardé ça, parce que le calcul va être basé sur cette dernière ligne. Ça veut dire que ma fonction W, elle coïncide avec somme sur y, les 2 moins b de y, fois wy. Ça, c'est vrai, modulo un élément du noyau de b moins l'identité. Ok. Et donc maintenant, je peux terminer le calcul. Il faut que je calcule. Alors, à la fin, ce qu'il faut que je calcule, c'est ça. Je vais calculer S de X1 W. Bon, ça, au départ, c'est complètement explicite. C'est le produit scalaire entre S de X1 et W, c'est le degré de X1. Ça n'a rien parce que, voilà, je regarde la définition des fonctions. Et par ailleurs, c'est égal à somme sur y de s de x de... Alors, je peux mettre en facteur 2 moins d de y. S de x1 wy. Ça, je peux faire ça parce que... Ça, c'est vrai seulement modulo un élément du noyau, mais S est orthogonal au noyau, donc je peux écrire ça. Et ça, alors qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, ça c'est justement, ça c'est la constante que je suis en train de chercher. Je sais que cette quantité-là, elle vaut grand C. Hein. Ce que je cherche, c'est la constante grand C. Cette quantité-là, elle vaut grand C. Pour tous les y différents de x1, et sinon elle vaut c moins 1. Donc ça va. Donc ça, c'est somme pour tous les y différents de x1. Là, je sais que cette fonction est constante et qu'elle vaut c. Donc c'est facteur de 2 moins d de y. Et puis juste en y égale x1, elle a une valeur, ça fait 2 moins d de x1, facteur de c moins 1. Et normalement, donc tout va bien se rassembler. Donc je trouve que d de x1, donc c'est la somme maintenant sur tous les... C'est la somme sur toutes les arêtes, sur tous les sommets. Le c se met en facteur. Et de l'autre côté, il va rester moins 2 plus d de x1. Moins 2c. Qu'est-ce que je raconte? Non, justement, moins 2... Oui, non, c'est bon comme ça. Donc là, celui-là, il se simplifie des deux côtés. Et ça... Ça, c'est deux fois le nombre de sommets. Et l'autre, j'ai la somme sur les sommets du degré. Ça, c'est la même chose que le nombre d'arêtes orientées. Donc, ça fait moins deux fois le nombre d'arêtes. Ah, donc, ça fait 0 égale c, 2 égale 2c, facteur de nombre d'arêtes moins nombre de sommets moins nombre d'arêtes, moins 2. Et qui donne, c'est ça qui donne la valeur de c. Donc le choix, il y a le choix de cette fonction test qui permet de reconstituer la valeur de c. Et bon, dans votre article, il y a une étape qui est un peu comme ça, mais je vois pas. Enfin, à part le fait que dans les deux cas, on a choisi une fonction test. Après, le détail du calcul est quand même assez différent et ça. C'est un petit peu mystérieux, le lien entre les deux manières de faire, mais voilà. Je crois que c'est ce que je voulais faire aujourd'hui, et à partir de la semaine prochaine, on parle de graphes aléatoires pendant deux séances. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.